Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 9 avril 2021. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Élection présidentielle à Djibouti ce vendredi, Ismaël Omar Guelleh brigue un cinquième mandat. Week-end électoral au Bénin et au Tchad, les électeurs de ces deux pays choisissent leur président dimanche. Le département d'État américain appelle à un processus crédible et démocratique. Attaque armée dans le centre du Nigeria, 11 militaires dont un officier ont été tués. Les hommages se multiplient après l'annonce du décès du prince Philippe à l'âge de 99 ans. Il était l'époux de la reine d'Angleterre, Elisabeth II. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. L'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme ce vendredi à Djibouti. Le sortant Ismaël Omar Guelleh, leader de ce pays stratégique de la Corne de l'Afrique, se présente pour un cinquième et théoriquement dernier mandat. Les précisions de John Lyndon.
Quelques 215 000 électeurs inscrits sur une population totale de 990 000 personnes se sont rendus dans les 529 bureaux de vote du pays, principalement à Djibouti-ville où se concentre la majorité de la population. Monsieur Guelleh, 73 ans au pouvoir depuis 22 ans, est candidat à sa propre succession. Face à lui, Zakaria Ismaël Farah, 56 ans, seul autre candidat, un homme d'affaires fraîchement entré en politique et qui n'a tenu que quelques timides rassemblements de campagne. Les chances de cet inconnu du grand public sont maigres face à Ismaël Omar Guelleh, qui a remporté avec plus de 75% des voix chaque présidentielle à laquelle il a participé. Ce scrutin s'est dessiné à moins comme un dernier tour des pistes pour M. Guelleh, qui aura, lors de la prochaine élection en 2026, dépassé la limite d'âge de 75 ans imposée par la Constitution. Le chef de la mission d'observation de l'Union africaine, Ahmed Tidiane Souaré, a déclaré à la presse que son équipe n'avait pas rencontré des délégués de l'opposant dans les bureaux de vote visités. Les résultats de ce scrutin sont attendus dans la nuit.
Les électeurs béninois et tchadiens se rendent dimanche aux urnes pour élire leur futur président. Au dernier jour de la campagne avant les scrutins, le climat politique se détériore dans ces deux pays. Une deuxième personne est morte ce vendredi au Bénin. Le Tchad a aussi connu des violences et les autorités ont accentué les restrictions dans l'espace d'expression civique ces derniers mois. Le département d'État américain dit suivre ces élections de très près. Le point avec Eric Manirakiza.
Dans sa conférence de presse de jeudi, le porte-parole du département d'État, Ned Price, a appelé au calme et au respect du choix des électeurs.
Well, I would start by saying we are watching these elections very closely. We call on all.
Nous appelons tous les acteurs à rester pacifiques. Nous partageons avec les populations du Bénin et du Tchad leur désir d'élections démocratiques et pacifiques qui garantissent aux électeurs de faire leur choix. Et c'est un choix qui porte sur les candidats partageant leur point de vue. Évidemment, nous ne soutenons aucun candidat. Ce que nous soutenons, c'est un processus démocratique et crédible. C'est ce que nous voulons au Tchad et au Bénin.
Au Tchad, le maréchal président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, brigue dimanche un sixième mandat. Le régime interdit systématiquement les marches pacifiques pour l'alternance que tente d'organiser l'opposition chaque samedi. Depuis mardi au Bénin, les habitants de plusieurs villes du centre et du nord du pays, fiefs de l'opposition, bloquent des rues pour protester contre le président Patrice Talon. Candidat à sa propre succession, il est accusé par l'opposition d'avoir confisqué le scrutin.
Au Nigeria, 11 militaires, dont un officier, ont été tués par des hommes armés dans l'état de Benue, dans le centre du pays. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'armée nigériane. Les détails avec Nani Talani.
Les soldats se trouvaient en mission de routine lorsqu'ils ont été attaqués, a indiqué un porte-parole de l'armée, Mohamed Yerima, dans un communiqué, sans préciser quand l'attaque s'est déroulée. Monsieur Yerima explique que les 10 soldats et l'officier qui se trouvaient avec eux avaient été initialement portés disparus. L'équipe de recherche et de sauvetage envoyée sur leur trace a malheureusement retrouvé leur corps. Une enquête est en cours pour traquer les assaillants. Des chefs communautaires de la région ont condamné les meurtres des soldats par ceux que le chef Edouard Oudjegué, ancien président de l'ethnie Tiv, qualifie de mécréants qui terrorisent nos communautés depuis des années. Ils promettent de coopérer avec l'armée pour débusquer les agresseurs. Le chef Edouard Oudjegué a également condamné des attaques menées en riposte, appelant l'armée à cesser ses représailles contre des communautés innocentes qui ont souffert à cause des activités des mécréants. Des médias locaux ont affirmé que plusieurs villages tives avaient été rasés par les troupes voulant venger les meurtres des soldats.
En République démocratique du Congo, un manifestant a été tué par balle ce vendredi à Butembo, dans l'est du pays, lors d'une marche contre l'inaction de l'ONU face au massacre commis par des groupes armés dans cette région. Lorsque des policiers s'activaient à dégager une barrière sur la voie publique, il y a eu des jets de pierres. Malheureusement, un manifestant a trouvé la mort atteint par une balle perdue, a déclaré le colonel Jean-Paul Ngoma, chef de la police de Butembo, située dans la province du Nord Kivu. Restons en RDC où au moins 24 personnes sont mortes et plus d'une vingtaine ont été blessées dans la collision jeudi de deux véhicules sur la route nationale entre Kinshasa et Kikwit dans l'ouest du pays. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le gouverneur de la province de Kiwilou. Selon lui, un incendie s'est déclaré aussitôt sur le lieu de l'accident, calcinant les corps et brûlant des rescapés. Un vaste coup de filet dans les réseaux de trafic d'êtres humains a permis ces dernières semaines de sauver quelques 500 victimes présumées et l'arrestation de 195 suspects en Afrique et en Europe, c'est ce qu'a annoncé ce vendredi Interpol. Menée entre le 28 mars et le 2 avril, l'opération Wika Stop en Swahili a impliqué 24 pays des deux continents où la conduite des enquêtes et l'échange de renseignements ont permis le démantèlement de réseaux criminels, précise dans un communiqué l'Organisation de coopération policière internationale dont le siège est à Lyon en France. Parmi ces pays, on compte notamment l'Afrique du Sud, le Kenya, le Soudan, la République démocratique du Congo, le Maroc, la Tunisie ou encore l'Espagne et la Grèce.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prince Philippe soutient sans faille pendant plus de 7 décennies à son épouse, la reine Elisabeth II, et à la couronne britannique, est mort aujourd'hui à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Les hommages affluent du monde entier, davantage avec Jacques Aristide.
Connu pour son caractère impétueux, voire ses gaffes, mais aussi pour son dévouement à la royauté, malgré les crises et les tempêtes, le duc d'Édimbourg, né prince de Grèce et du Danemark, était sorti il y a 3 semaines de l'hôpital. Il y avait passé un mois pour une infection, puis un problème cardiaque. Jusqu'aux funérailles réduites par la pandémie de coronavirus, le Royaume-Uni observera une période de deuil national. Le chef du gouvernement britannique Boris Johnson a salué la vie et le travail extraordinaire du prince Philippe. Des 4 coins du globe, dirigeants et familles royales ont transmis leurs condoléances. L'Australie, dont Elisabeth II est la souveraine, parle d'un homme qui incarnait une génération. L'Inde, de sa carrière remarquable. Berlin, de sa longue vie au service de son pays. Ici aux États-Unis, c'est l'ex-président George W. Bush qui a réagi le premier. Tout au long de sa longue et remarquable vie, il s'est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limite à la couronne britannique, écrit l'ancien locataire de la Maison-Blanche.
L'Union européenne annonce la poursuite des discussions sur le nucléaire iranien mercredi prochain, indiquant que des échanges productifs ont eu lieu lors de la première semaine de pourparlers à Vienne pour sauver l'accord de 2015. Les participants ont pris note des échanges constructifs et axés sur les résultats, a déclaré vendredi l'Union européenne qui coordonne les discussions dans un communiqué. L'Agence européenne des médicaments a indiqué ce vendredi avoir lancé une étude sur des liens possibles entre le vaccin anti-Covid de Johnson & Johnson et des caillots sanguins après que 4 cas ont été rapportés, dont un mortel. L'IMA a indiqué que sa commission pour la sûreté avait lancé une étude destinée à évaluer des informations sur des incidents concernant des personnes ayant reçu le vaccin. 3 des cas ont été signalés aux États-Unis après autorisation du vaccin et un l'avait été dans un pays non précisé lors d'une phase de test selon la même source. L'Union européenne a autorisé ce vaccin mais n'a pas commencé à l'utiliser. Le rappeur américain DMX est mort ce vendredi dans un hôpital de la banlieue new-yorkaise où il était hospitalisé dans un état critique depuis une semaine. Il avait 50 ans. DMX, de son vrai nom Earl Simmons, l'une des grandes figures du hip-hop de la fin des années 90 et début des années 2000, avait été hospitalisé vendredi dernier après un infarctus. DMX était un artiste brillant et une inspiration pour des millions de gens à travers le monde, a souligné Def Jam Recordings, maison de disques avec laquelle il avait sorti plusieurs de ses albums les plus connus. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
En République démocratique du Congo, les autorités ont annulé un contrat d'achat de 50 wagons suspectés de comporter de sérieux indices de corruption après la dénonciation d'ACAJ. Cette organisation citoyenne a saisi l'inspection générale des finances en invoquant le fait que le ministre des Transports, Didier Mazinga, a accordé le marché public sans appel d'offres. Et l'entreprise privée Sokin, qui a signé le contrat, est spécialisée dans le commerce des aliments, sans compétences particulières dans le ferroviaire. Les wagons étaient destinés à la ligne Kinshasa-Matadi. Le président angolais João Lourenço a promis de résoudre l'énorme dette de son pays en remboursant toutes les créances dûment certifiées dans le but d'encourager les investissements commerciaux de l'Espagne à la recherche d'opportunités à l'étranger pour renforcer son économie touristique durement touchée par la pandémie. S'exprimant lors d'une visite officielle du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, M. Lourenço a admis que la dette était souvent un facteur d'inhibition pour les investisseurs potentiels. Terminons par le Togo, où les formalités de création des sociétés à responsabilité limitée se feront désormais exclusivement en ligne, selon une annonce du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. La mesure censée réformer l'environnement togolais des affaires devrait aussi renforcer la tendance à la numérisation, écrit Togo First.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le tout-puissant Mazembe finit sa Ligue des champions CAF sur une note positive. Les matchs de la sixième et dernière journée de la phase de groupe ont commencé aujourd'hui. Le duel des éliminés du groupe B a tourné à l'avantage des Corbeaux de Lubumbashi, vainqueurs 2-1, des Soudanais d'Al Hilal. Dans l'autre match de ce groupe, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sont tombés à domicile 2-0 devant les Algériens du CRB Louizdad, mais ils conservent la tête du groupe B. Algériens et Sud-Africains sont qualifiés pour les quarts. Le groupe A joue aussi ce soir. L'AS Vita Club reçoit El Merrek du Soudan. Les deux clubs sont déjà éliminés, mais Florent Ibengue et ses poulains voudraient au moins terminer cette phase de poule sur une victoire. À suivre aussi à la Ligue d'Égypte, Simba de la Tanzanie. En Espagne, la Liga dit n'avoir pas trouvé de preuves d'insultes racistes à l'encontre du défenseur de Valence, Mukhtar Diakabi, lors du match contre Cadix dimanche dernier. Elle affirme avoir analysé les archives audiovisuelles et digitales disponibles, les bandes son du match, les images captées et ce qui a pu être diffusé sur divers réseaux sociaux sans rien trouver. Qu'aucune preuve n'ait été trouvée ne signifie pas que cela ne s'est pas produit, a réagi le club de Valence. Selon la radio Copé, les micros ont enregistré Kala dire à Diakabi, je cite, « Merde, fous-moi la paix », puis s'excuser en disant « Pardon, ne t'énerve pas ». La Liga dit attendre la décision de la Fédération espagnole compétente en la matière. Ici, en NBA, après deux défaites serrées à Dallas puis Phoenix, Utah s'est ressaisi 122-103 contre Portland. Autre concurrent déclaré à l'Ouest, Utah consolide sa première place, surtout que Phoenix a cédé chez les Clippers 113-103. Luka Doncic, tout près du triple-double, 27 points, 9 passes décisives et 9 rebonds, a porté Dallas face à Milwaukee 116-101. Intense en finale du championnat l'an passé, le duel entre Lakers et Miami s'est avéré cette fois assez ennuyeux, le Heat finissant par l'emporter 110-102 sur son parquet. Miami rejoint Atlanta au cinquième rang à l'Est. Plus bas dans la lutte pour les barrages qualificatifs pour les playoffs, Toronto a perdu un match important à domicile face à Chicago 122-113. Grâce à ce troisième succès d'affilée, les Bulls restent 10e devant les Raptors, 11e et Cleveland 12e. Vainqueur à Oklahoma City 129-102.
Merci à Kuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Tchad, où la campagne électorale prend fin officiellement ce vendredi. Les candidats en lice ont sillonné villes et villages pour convaincre les électeurs à voter pour eux, à l'exception de Félix Nyalbe Romondungar, qui a dû écourter sa campagne après avoir testé positif au Covid-19. Une partie des forces vives qui s'opposent au sixième mandat d'Idriss Déby Itno appelle la population à boycotter cette élection et à manifester les 10 et 11 avril pour exprimer sa colère. André Kolmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le 11 avril, c'est la date qui va départager les 6 candidats qui disputent le fauteuil présidentiel avec le président sortant Idriss Déby Itno, candidat favori à sa propre succession. Tous ont jusqu'à minuit pour convaincre les électeurs indécis à voter pour eux. Une partie de la société civile et de l'opposition qui multiplie les actions citoyennes pour exiger le retrait du président Déby de la course sans succès appelle la population à boycotter cette élection. Barka Michel est le porte-parole adjoint de la coordination des actions citoyennes.
Il nous reste à vous dire une seule chose. Boycottez les élections du 11 avril 2021. Vous devez tous vous abstenir d'aller voter et sortir massivement manifester votre refus d'un mandat supplémentaire à Déby le 10 et le 11 avril.
Pour le militant du MPS, le parti au pouvoir, l'élection présidentielle du 11 avril aura bel et bien lieu.
Quand la personne a déjà l'esprit pour dire que je vais aller au boycott, il n'a pas la capacité d'aller en face de nous. Nous, au niveau du parti MPS, le 11, nous irons aux élections et rien ne va nous arriver même. Nous, on est serein. Hein?
Député Epainette Dimina Achille, directrice adjointe de campagne du président sortant Idriss Déby Itno de la commune du 7e arrondissement. Pour les autres militants, c'est le chien à bois et la caravane passe.
Aujourd'hui, vous regardez là-bas en Amérique. Jusqu'à maintenant, Donald Trump il ne reconnaît pas la légitimité de Joe Biden. Mais ça, ça ne va pas faire échanger les élections. Nous sommes convaincus qu'on va gagner ces élections.
Si l'artelance ou le champ le changement s'est trouvé dans les boycotts. En 2011, l'opposition et les sociétés civiles ont boycotté, mais cela n'a pas empêché Idriss Déby Itno de rester au pouvoir jusqu'à là.
Les militants du candidat Paimi Paraké Albert appellent le peuple tchadien à voter pour le changement que d'opter pour le boycott.
Nous appelons la société civile, nous appelons l'opposition à se fédérer autour de nous et ensemble on fait tomber le masque.
À tous ceux qui disent trop c'est trop, eh bien qu'ils sortent le 11 avril 2021 voter le candidat du changement Paimi Paraké Albert.
Le citoyen Garondé Djarma ne croit pas à la crédibilité de cette élection.
En dehors de Tomolbaï qui a gagné les élections de 31 mai 59 et j'étais encore président d'un bureau de vote, il n'y a jamais eu d'élections crédibles au Tchad. Il faut être vraiment naïf pour croire à des élections crédibles avec le pouvoir actuel.
La directrice adjointe de campagne du président sortant Idriss Déby Itno de la commune du 7e arrondissement, député Ipaineb Jimina Achille, refute cette affirmation.
Depuis 30 ans, MPS n'a jamais volé.
Depuis 7 ans, on est en train de battre la campagne. On ne voit personne au terrain. Ils sont où? La personne qui veut gagner, il n'a qu'à venir au terrain.
À la veille de cette élection, 5 personnalités politiques de l'opposition, dont 4 membres du FNC, le Front National pour le Changement, un regroupement des partis politiques qui soutiennent la candidature de Yaya Diallo, sont arrêtés par le service de sécurité. Selon le ministre en charge de la sécurité publique, ces individus interpellés sont en intelligence avec les groupes terroristes et seront mis à la disposition de la justice. André Kodumadingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Nigeria, le sud-est du pays connaît une recrudescence d'attaques visant les forces de sécurité. Lundi, par exemple, des assaillants faisant usage d'explosifs et de roquettes ont fait irruption dans une prison à Oweri, la capitale de l'État d'Imo, libérant plus de 1800 détenus. Les autorités accusent le peuple indigène du Biafra, un groupe séparatiste en lutte pour l'indépendance du peuple Igbo. L'IPOB a démenti toute implication. Pour une analyse, Yacouba Ouédraogo a joint le professeur Amosu Tondounou, ancien vice-recteur de l'Université de l'État de Lagos.
Nous, on veut particulièrement aux autorités parce qu'ils ont l'impression d'être laissés pour compte. Tout récemment, il y a eu le chantier du pont sur, un deuxième pont sur le fleuve Niger pour justement avoir une sorte de connexion avec le reste du pays. Mais en général, il paraît qu'à l'Est, il y a beaucoup de mécontentement et qui commence à se manifester d'une manière assez bizarre. Parce que quand on s'attaque à le poste de police, quand on décide d'aller libérer des prisonniers, évidemment, on est passé déjà plus de ventes.
Est-ce simplement des mouvements d'humeur, de mécontentement, comme vous le dites, ou il y a une réclamation profonde au-delà de ce qu'on voit?
C'est une question beaucoup plus profonde qui remonte justement au lendemain de la fin de la guerre civile. Les gens de l'Est du pays ils ont l'impression d'être mis un peu à l'écart. C'est-à-dire au plus haut niveau. Depuis l'avènement, par exemple, du général Urenci, le militaire qui a pris le pouvoir après le coup d'État de 66, personne de l'Est du pays n'a eu les commandes justement du Nigeria. Et les gens commencent un peu à râler, à se dire que finalement, si les choses devaient continuer comme ça, ils n'ont qu'à quitter carrément le Nigeria. Vous savez que c'était une forme la plus grande revendication du Biafra. Et depuis 1970, depuis la fin de la guerre, on dirait que les choses n'ont pas vraiment changé.
Est-ce que ce sont clairement des mouvements de mécontentement à l'égard de l'État ou c'est des revendications sécessionnistes comme à l'époque de la guerre du Biafra?
Franchement, je crois qu'il y a d'abord des mécontentements. Quand les gens ont l'impression que les autorités ne sont pas prêtes à discuter, à dialoguer, il y a beaucoup qui pensent désormais à cette idée de situation. Mais on sait que c'est tout à fait difficile parce que l'affaire Biafra est maintenant entourée de toutes parts. Pratiquement dans d'autres états. Donc, quand on parle de sécession, je sais que ce n'est pas pratique. Je crois que le dialogue pourrait résoudre beaucoup de problèmes.
Est-ce que le pouvoir a offert, par exemple, le dialogue à ceux qui font ces mouvements d'humeur ou de sécession?
Il y a certains originaires de l'Est qui sont membres du gouvernement, mais cela ne représente pas la grande majorité. Il est vrai qu'il y a des ministres originaires de l'ancien Biafra, mais justement, c'est ça qui fait que la très grande majorité se sent un peu laissée à l'écart. En plus de cela, évidemment, avec l'insurrection de Boko Haram, on voit comment les autorités traitent ces gens-là par rapport à ce qui se passe à l'Est. Il y a la mer très dure des autorités. Qui certains commencent à se dire, voilà, s'ils étaient traités de la même manière que les gens de Boko Haram, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont changer.
C'était le professeur Amosu Tondounou, joint à Lagos.
Deux rendez-vous à ne pas manquer sur notre antenne ce week-end. Jacques Aristide avec vous. VO Afrique vous propose un programme spécial Covid-19. Un an après, un nouveau forum citoyen virtuel en deux parties consacré à la pandémie meurtrière du nouveau coronavirus. À l'heure où les campagnes de vaccination se poursuivent partout dans le monde, y compris en Afrique. Un panel d'experts répond à vos questions une année plus tard. Où en est-on dans la lutte contre la maladie? Comment mesurer l'efficacité des vaccins? À quand un retour à la vie normale? Rendez-vous donc ce samedi 10 avril à 18h30 en temps universel et ce dimanche 11 avril à la même heure. Bonne écoute!
Au Gabon, l'heure est désormais à la vaccination. Secoué par la deuxième vague de l'épidémie du coronavirus, ce petit pays d'Afrique entend immuniser sa population. Un véritable défi pour le gouvernement qui n'a reçu de son partenaire chinois que 100 000 doses depuis environ un mois. En attendant d'autres commandes internationales, une petite visite des centres de vaccination de Libreville pour voir comment ils fonctionnent. C'est un reportage de notre correspondant Ismaël Obianze.
Les données régulièrement enregistrées à l'échelle nationale tout au long du mois dernier indiquent que la courbe de contamination est toujours à la hausse. Le Gabon, qui est à sa troisième semaine de vaccination, compte désormais près de 20 000 cas contrôlés positifs. De quoi inquiéter les autorités qui en appellent à la responsabilité collective et individuelle des populations sur l'enjeu du vaccin. Oumu Wermi, est candidate à la vaccination anti-Covid-19.
Chez Bouffini, j'ai regardé sur les réseaux dédiés et le vaccin, à mon avis, est assez rassurant, donc je me lance aujourd'hui pour le faire.
Pour Oumou, c'est certainement une nouvelle vie qui commencera après la vaccination. Pour d'autres personnes déjà vaccinées, c'est le soulagement. Moussa Nzienki, candidat à la vaccination anti-Covid-19.
Après le vaccin, on a droit à 15 à 30 minutes d'observation. Je crois que je suis à la fin de ces minutes-là et tout va bien. Je crois que
la prochaine dose interviendra dans 15 jours pour toutes les personnes déjà éligibles au vaccin. À l'hôpital de la coopération sino-gabonaise, le circuit de vaccination est identique à toutes les autres structures. Il passe par un consentement libre et éclairé entre le patient et le médecin. Huguette Undunga est surveillante générale de l'hôpital sino-gabonais de Libreville.
Un dossier ouvert pour chaque malade. Donc le médecin discute avec, comme vous voyez la dame, elle est avec le médecin. Donc on pose toujours des questions pour savoir si le patient est éligible ou non.
Le déploiement de la vaccination se fait en priorisant les candidats les plus vulnérables au virus et les plus susceptibles de développer des formes graves de la maladie. L'administration des doses de vaccins tient compte de plusieurs critères. Docteur Lisbeth Akebeyari, coordinatrice du centre de vaccins COVID-19 à l'hôpital sino-gabonais de Libreville.
Ne pas avoir eu la COVID-19 ces 3 derniers mois, les personnes enceintes ne sont pas éligibles au traitement, les personnes immunodéprimées, les personnes sous anticoagulants qui ont certains traitements et certaines pathologies qui ne sont pas éligibles.
Entre le 23 mars dernier, date du lancement de cette campagne de vaccination contre le COVID-19, et maintenant, les sous-officiels dressent une liste d'environ 3000 personnes ayant déjà reçu leur première dose de vaccin, soit plus de la moitié de l'objectif de 50 000 personnes visées d'ici mi-avril par le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Comme les frères Wright sur Terre en 1903, la NASA cherche à réaliser le premier vol motorisé et contrôlé sur une autre planète. L'agence spatiale américaine envisage de faire décoller bientôt son petit robot volant Ingenuity de la surface de Mars. Un reportage d'Aras Arabassidi de VOA sur l'actualité spéciale de la semaine, relaté par Nathalie Barge.
Une photo devenue célèbre dans le monde de l'espace. Le rover Perseverance, surnommé Percy, et l'hélicoptère Ingenuity posant pour un selfie sur la planète rouge lors d'un voyage interplanétaire. La NASA a envoyé Perseverance sur Mars le 30 juillet à près de 55 millions de kilomètres, la plus courte distance possible entre les deux planètes. Ce robot de la taille d'une voiture doit maintenant trouver la rampe de lancement idéale pour que les scientifiques et équipages sur Terre puissent tester Ingenuity. La chef de projet, Mimi Hong, souligne qu'il s'agit de traverser une pression quasi inexistante du fait d'une atmosphère de très faible densité.
First and foremost challenge is...
Le premier défi consiste à fabriquer un véhicule suffisamment léger pour être soulevé. Puis le second consiste à générer de la portance. Le système de rotor doit être tourné très vite.
La NASA a également effectué un test de chute sur l'eau de sa nouvelle capsule lunaire Orion à Hampton en Virginie. L'engin spatial d'environ 6000 kg a été conçu pour le programme Artemis qui va envoyer la première femme sur la Lune d'ici 2024. De l'autre côté de l'Atlantique, l'agence spatiale européenne recrute pour la première fois depuis 11 ans, affirmant rechercher davantage de femmes et de personnes handicapées. L'ESA, qui n'a envoyé que deux femmes dans l'espace, prévoit de recruter jusqu'à 26 astronautes permanents et réservistes. L'astronaute français et nouveau commandant de la Station spatiale internationale ISS, Thomas Pesquet, encourage les gens à postuler.
Trop de gens ne postuleront pas, par exemple, pour une sélection d'astronautes parce qu'ils pensent que c'est vraiment trop difficile et que ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas vrai et j'espère en être la preuve. Nous sommes tous des gens normaux.
Par ailleurs, alors que les astronomes blâment SpaceX depuis près de 3 ans de bloquer leur vue du ciel, l'entreprise spatiale d'Elon Musk a lancé 60 nouveaux satellites en basse orbite le 7 avril. pour compléter son réseau Starlink visant à fournir un accès Internet rapide et fiable aux communautés mal desservies du monde entier.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Spagnon et Joseph Molissa. La présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.